Tout là-haut, emmène-moi. J'attends impatient ton retour. Là-bas, tout là-bas, c'est chez moi. C'est là qu'on trouvera l'amour. Je ne veux pas me contenter de t'attendre. Enseigne-moi tes lois. Ta parole est pour moi si tendre. Pourtant tu exiges de moi. C'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Que tu as mis dans mon cœur, rien ni personne pourra le changer. Annoncer Jésus comme sauveur, voilà ma
tous. Oh, la prédication de vendredi soulève bien des questions. Je crois que je vais prêcher de nouveau là-dessus vendredi prochain, ou à moins que ce soit Manu, s'il est en forme, on verra. Mais un de ces jours, je vais répondre à toutes les questions. Il y en a pas mal, des questions. Ça me fait plaisir parce qu'au moins, je vois que les gens réfléchissent, qu'ils gobent pas tout comme ça. Ils réfléchissent. Ça fait plaisir. Amen. Donc, on reviendra sur ces choses. Je vous rappelle que demain à 14h02, nous avons la nouvelle lune. Alors pour ceux qui savent pas, nous avons appris par des sorciers africains qui se sont convertis qu'il y a des grandes réunions de sorciers internationaux, c'est des réunions internationales, mondiales, de sorciers qui se réunissent aux nouvelles lunes, aux équinoxes, aux solstices, enfin il y a plein de dates comme ça, pour maudire l'Église de Jésus-Christ, pour maudire les gouvernements et les hommes et les femmes d'autorité. Alors nous voulons nous tenir sur la brèche et repousser les ennemis derrière leurs portes. Et voilà pourquoi demain vous avez rendez-vous à 14h02 pour repousser vos ennemis et les ennemis de votre pays et de l'Église de Jésus-Christ derrière leurs portes. Vous le ferez ? Amen. Moi aussi. Gloire à Dieu. Je vous le rappelle. Donc tout ça c'est inscrit sur notre site Révélation Bible. Vous allez avoir toutes les références bibliques pour montrer que cela est bon de le faire. On peut prier n'importe quand. Mais c'est beaucoup plus intelligent d'avoir une stratégie et de prier dans les moments où justement ces portes derrière lesquelles les ennemis ont concocté des plans, au moment où elles s'ouvrent pour pouvoir déverser sur la terre toutes sortes de mauvaises choses, au moment où elles s'ouvrent, nous sommes là et nous les refermons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bon, c'est mieux, c'est plus facile, parce qu'une fois qu'ils ont commencé les dégâts ici, c'est un peu éparpillé, c'est beaucoup plus difficile. Tandis que si c'est juste concentré sur l'endroit où ça se passe, la Bible nous parle de portes, le livre d'Enoch nous parle de portes, et toutes ces choses-là, vous aurez toutes les références dans Révélation Bible, c'est facile à trouver, et ça va vous bénir, et ça va bénir surtout l'Église, et puis aussi nos pauvres pays qui sont... De toute façon, on sait que c'est la fin des nations, mais enfin bon, on peut quand même prier toujours pour que l'évangile soit apporté, que ceux qui doivent connaître connaissent, amen, voilà. Ce matin, on va lire Romains chapitre 10, versets 13 à 17, s'il vous plaît. Alors, c'est l'apôtre Paul qui s'explique et qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Le nom du Seigneur Jésus. Hein. Mais il dit « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» C'est net, c'est logique, hein. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Vous comprenez, mes frères et sœurs ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, conclut, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui aillent le dire, parce que s'il n'y a personne pour le dire, comment pourront-ils savoir et comment pourront-ils invoquer le nom de Jésus s'ils n'en ont pas entendu parler? Mais quand on en a parlé, quand les gens connaissent, quand ils ont appris, alors ils peuvent avoir la vraie foi. La foi. Là, il dit, la foi vient de ce que on entend. Alors, on pense très souvent de ce qu'on entend. Blablabla, bla, bla. Vous avez entendu quoi? Blablabla. Bla, bla. Non, c'est pas ça. Ça vient de l'entendement. Qu'est-ce que c'est l'entendement? C'est l'aptitude à comprendre. Quand quelqu'un prêche, il doit être le plus clair possible pour qu'on le comprenne. Il y a quelque chose à comprendre. Quelqu'un qui a la foi, c'est une personne qui a compris l'enseignement. La foi, elle ne vient, ça vient de nulle part ailleurs. Une personne ne peut pas avoir la foi en Jésus-Christ si elle ne connaît pas l'enseignement de Jésus-Christ. Si elle ne connaît pas l'enseignement de Jésus-Christ, elle croit avoir la foi. Mais sa foi n'est qu'une croyance. C'est une croyance. Il croit en Jésus-Christ. Je développe. La croyance, ça n'est pas la foi. Ça en fait partie. Mais ça n'est pas la foi. La foi vient de la compréhension de qui est Dieu et de ce qu'il veut. C'est pourquoi la foi, et ça fait longtemps que j'enseigne ces choses, depuis quelques semaines, je vous dis, la foi c'est une science. C'est un ensemble cohérent de connaissances relatives au fait de Dieu. Si Dieu agit d'une certaine façon une fois, il agira toujours de la même façon parce qu'il est celui qui ne change pas. Il le dit lui-même, on trouve ça dans Hébreux 13, 8. Jésus ne change pas, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais heureusement, parce que sinon, comment pourrions-nous avoir la foi si c'était un Dieu girouette qui change sans arrêt? Non, s'il dit quelque chose, on peut compter là-dessus. Beaucoup de gens pensent que c'est vaseux, les choses de la foi. Non, c'est une science. C'est pourquoi notre foi, elle est basée sur un terrain solide. La vraie foi, elle est basée sur un terrain solide. Et non pas sur quelque chose de vaseux, par exemple, basé sur des expériences. Beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui courent après des expériences. Il y a des lois divines qui peuvent être vérifiées par des méthodes expérimentales. Les lois spirituelles, morales, physiques, toutes les lois spirituelles ne sont pas plus mouvantes que les lois physiques. Les lois spirituelles sont nettement enseignées par les prophètes, par Jésus, par les apôtres. Et les gens qui ont une croyance en Dieu, par exemple, vous avez des gens qui ont une croyance en Dieu tout-puissant, ils croient que Dieu est tout-puissant, mais leur vie démontre que
ils ne croient pas vraiment cela. C'est pas vraiment une foi qu'ils ont, c'est une croyance, parce qu'il y a une incohérence entre ce qu'ils disent croire et ce qu'ils vivent. Croire que Dieu est tout puissant, c'est pas forcément avoir la foi que Dieu est tout puissant. Car la foi, elle sait plus de choses au sujet de Dieu que simplement que Dieu est tout puissant. La foi, elle sait, elle a appris, elle connaît par les Écritures, par l'enseignement, que Dieu est tout puissant, c'est vrai, mais que aussi Dieu est juste. Et que s'il a dit quelque chose, lui, le Dieu qui peut tout, s'est volontairement limité et a décidé de ne jamais revenir sur une chose qu'il a dite. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas revenir sur une chose qu'il a dite. Ce Dieu tout-puissant ne reviendra pas sur ce qu'il a dit. La foi, elle sait que Dieu est juste, que Dieu est amour, et qu'il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Alors, il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées parce que justement, elles ne respectent pas cette connaissance, ces lois, cette science. Ces lois ne sont pas là pour nous rendre la vie difficile. Au contraire, ces lois sont là pour nous rendre la vie plus facile. Il a dit clairement, afin que nous sachions et que notre vie soit plus facile. Parce que s'il fallait chercher à tâtons quelles sont les idées de Dieu, ça serait vraiment compliqué. Mais il a eu la bonté, l'amour de mettre tout ça là-dedans afin que celui qui cherche, il... Excusez la comparaison, mais les lois, elles sont les lois de Dieu, elles sont un peu comme les lois humaines qui concernent la circulation sur les routes. C'est pas fait pour vous nous embêter, au contraire. Oui, c'est vrai que c'est très embêtant d'avoir un PV, mais bon. Si on a un PV, c'est qu'on a transgressé une loi. Une loi, s'il n'y a pas de punition quand il y a transgression, c'est pas une loi, c'est une blague. Alors, les lois spirituelles et morales instituées par Dieu sont aussi immuables que la loi, par exemple, de la pesanteur. Mais heureusement, mais vous rendez compte, si c'était pas immuable, chaque fois que je lâcherais quelque chose comme ce truc-là, ça flotterait en l'air. Mais qu'est-ce qu'il y aurait comme fouillis? En Suisse, on dit, mais quelle chenille il y a dans cette église. Chenille, ça veut dire fouillis en Suisse. Quel fouillis, quelle chenille y aurait partout. Chaque fois qu'on lâche quelque chose, ça, mais ça serait rigolo, hein. Tous les gens qui jettent leur papier de chewing-gum par terre ou les mouchoirs, là, on en a trouvé encore un ce matin, là, devant la chapelle. Mais ils flotteraient en ce moment. Un petit mouchoir qui flotte. Heureusement qu'il y a la loi de la pesanteur. Elles ont été écrites, toutes ces choses-là, afin de nous servir. Tout cela pour dire que lorsque vous lisez la Bible, vous y trouvez par exemple des histoires de celui-ci, de celui-là, et toutes ces histoires ont été écrites pour notre édification, pour notre construction, pour notre instruction, en vue d'une vie abondante, parce que Jésus a dit, le diable il est venu pour tuer, égorger, détruire, mais moi je suis venu pour que vous ayez la vie abondante. Oh Seigneur, tu m'as promis la vie abondante, super, donne-moi la vie abondante mon Dieu, je veux la vie abondante que tu as promis. Seigneur, tu as promis la vie abondante, comment ça se fait que ça marche pas? Oui, il a promis, mais il y a des lois pour y arriver. C'est pas magique. La Bible nous permet d'étudier les premiers principes et les premières causes, et ça nous permet, ces vieilles histoires d'il y a 2, 3, 4, 5 000 ans, ça nous permet de pouvoir nous construire, nous, aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas et ses lois sont immuables. La Bible enseigne des choses absolument rationnelles. La vraie foi, elle est rationnelle. Rationnelle, ça vient du mot ratio, c'est du latin. Et ça signifie raison. La raison, c'est le contraire de l'empirisme. L'empirisme, c'est une méthode qui s'appuie que sur l'expérience. Alors, on peut faire des expériences erronées. Un exemple. Je vous donne un exemple. Et il y en a beaucoup d'autres. Une personne est malade. Elle va chez un guérisseur. Chez ce guérisseur, elle s'assied dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'elle voit? Du crucifix. Elle dit, ah, c'est un chrétien. Oui, mais à côté, il y a une vitrine avec un grimoire, un pentacle, des bougies, une statue de la Vierge. Je dis, un chrétien. Et puis, ensuite, elle rentre dans le cabinet du guérisseur, puis elle entend des espèces de marmonnements. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est une prière que ma grand-mère m'a apprise sur son lit de mort. Et c'est une prière secrète. Ah bon? Alors, il voit une Bible, il dit, oh, quand même, non, c'est un chrétien. Bon, alors, ça trône, justement, c'est formidable. Il est très ouvert, ça trône à côté du livre du grand Albert. Puis il y a le petit Albert, juste sur... Vous savez ce que c'est le grand Albert? C'est des bouquins sataniques. Bon, le guérisseur prie au nom de la Vierge Marie. Ah, le chrétien, la Vierge Marie, c'est la Bible quand même, hein? Et puis voilà que notre malade, il est guéri. Bref. Ah, j'ai oublié de vous dire, il prie aussi Sainte Gudule. Non, ça c'est pour plaisanter. Résultat, cette personne guérie va avoir une croyance empirique. C'est-à-dire qu'elle se base, elle a eu un résultat, donc elle en conclut que cet homme est un homme qui fait du bien, qui travaille pour le bien, qui fait le bien. Vous voyez, c'est une croyance empirique. L'empirisme, je vous rappelle, c'est une méthode qui ne repose que sur l'expérience. Une personne qui a la foi en Jésus-Christ, elle sait très bien d'où vient la puissance de ce guérisseur. Comment elle le sait? Parce qu'elle juge. Non, parce qu'elle a une connaissance, parce qu'elle a un enseignement. Elle le sait parce qu'elle a trouvé dans la Bible l'enseignement. Et elle sait que ce guérisseur-là n'agit pas avec la bonne puissance, mais avec le côté sombre de la puissance. Vous voyez, la foi, ça n'est pas empirique. C'est pas parce que vous avez expérimenté quelque chose que forcément c'est juste. La foi, elle est raisonnable. Elle repose sur la raison communiquée par la parole de Dieu, par la Bible. Par la Bible. La foi repose sur ce qu'on entend de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'il y ait des gens qui travaillent pour savoir au plus près ce que Dieu dit. Ce n'est pas les évangélistes qui font ça, c'est les docteurs, c'est-à-dire les gens savants qui connaissent la valeur des mots, qui savent chercher, qui savent donc trouver pour mettre au plus près dans ce livre les choses qui concernent la vraie foi. On a besoin aussi des évangélistes, et on a besoin des prophètes, on a besoin des docteurs, on a besoin de tout ça, des apôtres. Mais il faut connaître. La science que Dieu donne à notre entendement par les Écritures n'est pas plus surnaturelle que la science des nombres, par exemple, des chiffres. C'est pas plus surnaturel. C'est pas surnaturel. Pour Dieu, rien n'est surnaturel. Et à partir du moment où on rentre dans le monde de Dieu, si on est dans le monde de Dieu, tout ce que Dieu fait, la façon dont il le fait, ça ne nous apparaît pas comme quelque chose de surnaturel, mais comme quelque chose de naturel. Les gens qui nous regardent faire des miracles au nom de Jésus trouvent ça miraculeux. Mais pour nous, non, c'est le résultat de l'observation scrupuleuse de règlements bibliques que Jésus a donné à ses disciples. Ah, bien sûr, c'est extraordinaire un aveugle qui retrouve la vue. À chaque fois, je pleure quand je vois ça. Mais ça ne va pas contre les lois de Dieu. Dieu ne va jamais contre sa propre loi. Vous voyez, il faut démystifier beaucoup de choses. Un miracle, ce qu'on appelle un miracle, c'est le résultat de l'alignement de deux bonnes volontés, de la volonté de Dieu et de la volonté de l'homme qui prie ou de la femme qui prie. C'est ça un miracle. C'est l'alignement de ces deux volontés. Vous ne pouvez jamais prier et être exaucé si c'est pas la volonté de Dieu. Il n'y a que les prières faites selon la volonté de Dieu qui sont exaucables. Dieu ne changera jamais ce qu'il veut faire. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il veut bien partager avec nous les actions. Il vit en nous pour les faire. Alors maintenant, regardons notre beau pays de France. Alors, je suis très triste de le dire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de miracles en France. Je parle avec beaucoup de pasteurs qui sont désolés, des chrétiens qui sont désolés, qui me disent, mais alors Michel, parce que je leur raconte les témoignages en Afrique, les miracles et tout ça, et ils me disent, oui, mais c'est normal qu'en Afrique, il y ait tant de miracles, parce qu'ils sont simples, carrément, ça veut dire qu'ils sont bêtes, quoi, voilà, et puis ils réfléchissent pas comme nous, hein, ils croient facilement, ils sont neuneux, on pourrait dire, si on le dit plus simplement, hein, ça a l'air de dire ça, quoi, hein. Non. Moi, je vais vous dire la vérité scientifique. Parce que ça m'embête à force d'entendre toujours ces choses. Oui, mais Dieu peut faire ça là-bas en Afrique parce que les gens sont pas compliqués. Oui, d'ailleurs, dans les années 60, c'était la même chose avec les gitans. Ils étaient illettrés, connaissaient rien, puis tout d'un coup, ils sont confrontés à la parole de Dieu. Ça leur a fait un choc, alors il y avait beaucoup de miracles. Mais maintenant, ils vont presque tous à l'école, alors il n'y a presque plus rien. Vous avez remarqué, hein? Bon, on vous l'a pas dit ça? Bon, on n'arrête pas de me le dire. Je vais vous dire la vérité scientifique. C'est que la France, et même la France évangélique, mes frères et sœurs, c'est vrai ce que je vous dis, est de plus en plus antisémite. Pourquoi ils sont antisémites? Parce qu'ils écoutent France Inter, parce qu'ils lisent les journaux, qu'ils sont sans arrêt en train de critiquer ce qui se passe là-bas en Israël. Je suis allé en Israël, j'ai vu, et dis donc, si on vous faisait péter des bombes sans arrêt sur la figure, vous vous défendriez pas, vous? Il faut aller vivre un peu là-bas pour se rendre compte. Ils se défendent. Dieu leur a donné ce pays. C'est écrit. Et ils se défendent. Et ils ont raison de se défendre. Alors vous me direz, oui, mais ils sont pas parfaits, il y a des bavures. Oui, ah ben oui. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est pas parfait. Voilà. Alors c'est très difficile de dire bravo à tout ce qu'ils font, c'est sûr. Mais pourquoi cet antisémitisme? Pourquoi cette critique qu'on entend dans les milieux évangéliques? Moi, je me rappelle, il y a encore 15 ans en arrière, on n'entendait jamais ça. Au contraire, c'était peut-être un petit peu même exagéré, cet amour pour les Juifs. Il était même un petit peu fanatique, cet amour pour les Juifs, il y a une quinzaine d'années. Mais maintenant, on entend carrément des propos antisémites dans les églises, dans les sermons. Regardez ce que le prophète Ésaïe dit. Il dit, celui qui vous touche, c'est-à-dire que celui qui touche Israël, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Et voici, Dieu lève sa main contre eux. Contre qui? Contre ceux qui touchent Israël, qui font du mal à Israël. Zacharie 2, 8, 9. Lisons ce que Dieu dit à Abraham, Genèse 12, 1, 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, là où il habitait, c'est-à-dire l'actuel Irak, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il lui a montré quoi, la Suède? Non, il a montré Israël. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà la démonstration scientifique. Oh, mais les Américains, alors oui, ils ont des grandes églises, et puis oui, mais c'est parce qu'ils sont très forts dans le business, et puis ils sont très forts dans le marketing, puis ils savent très bien faire comme, ils savent très bien comment faire pour attirer les gens, mais en réalité, vous savez, les chrétiens américains, c'est bon, nous, qu'un américain, ils sont pas aussi sains que nous. Vous avez pas entendu ça ici en France? Foutaise. C'est parce que c'est encore un pays qui bénit Israël. C'est une loi. On va pas contre la loi de Dieu. Et bien sûr que les Américains sont pas parfaits. Montrez-moi un Américain qui est parfait. Montrez-moi un Français qui est parfait. Il n'y a que les Suisses qui sont bien. Il n'y en a point comme nous. Il y en a un qui a dit, on a essayé de sauver la France, mais on n'a pas réussi. Enfin, il n'y en a point comme nous. J'espère que vous savez que je rigole, hein. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce texte, c'est un texte de loi. Et quand on se moque d'un texte de loi, quand on n'en tient pas compte, ben, il y a des pots cassés qu'il faut, il faut payer. Il y a un endroit là, vous savez, quand vous venez de Paris sur, jusqu'à la communauté, il y a un endroit, alors c'est une belle descente, on a envie de foncer là, c'est génial, puis après, il y a une belle montée. Là, avant, moi, je la faisais à 130, hein, c'était marqué 110, je la faisais à 130, c'était génial, parce que ça fait, pardon, je donne encore un bout là. C'était fantastique. Puis maintenant, ils sont terribles, ils ont mis un radar, mais il est vraiment bien caché, c'est sournois. Et puis, ils ont mis 70, mais c'est un bête. Mais pourquoi 70? Pourquoi? C'est tellement agréable de rouler là, on risquerait 70. Ah, vous me direz, oui, il y a une espèce de carrefour. Mais on les voit arriver de loin, on peut pas. Bon, 70. Mais si on respecte pas cette loi, même si elle nous paraît bête, eh ben, on paye, hein. Moi, je me suis fait avoir une fois là-bas, mais c'est pas deux, hein. Alors maintenant, c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui savent pas, alors tout d'un coup, je ralentis. Je suis du 70. Mais c'est énervant. Alors je vois derrière des gens qui me font des appels de phare. Alors je rigole. Puis quand je passe à côté du machin, je fais ping. Alors ils me font des appels de phare derrière. C'est rigolo. On paye quand on transgresse les lois. C'est comme ça. On ne peut pas s'attendre à une bénédiction si Dieu dit qu'il y a une malédiction. On ne peut pas bénir quelqu'un qui est maudit. Le Dieu qui peut tout, le Dieu tout-puissant, s'est fixé des limites. Il ne peut pas revenir sur sa parole, parce qu'il a décidé qu'il ne reviendrait pas sur ce qu'il a dit. Il est tout-puissant, il pourrait revenir sur sa parole disant « Oh, bon, après tout, allez, je vais les bénir, ces frouzes. C'est pas grave, ils sont un peu gnagnou. Hein, on va les bénir quand même, puis ils souffrent tellement. Hein. Oh, allez, hop, ça me coûte pas grand-chose. Allez, je les bénis. » Eh ben, ça serait pas juste. Dieu est juste. Ah, Dieu est dur, il n'a jamais dit le contraire. Quand l'homme est venu vers Jésus disant, nous savons que tu es un homme dur, il n'a pas dit, oh les mecs, c'est pas gentil, hein, je suis pas dur, moi, c'est pas vrai. Hein. Non, il n'a pas dit ça, il a dit, tu savais que je suis dur. Alors pourquoi tu n'as pas fait? Vous comprenez? C'est juste un exemple que je vous donne là. Ce que Dieu dit, c'est de la plus haute importance. On ne peut pas impunément avoir notre propre croyance. Beaucoup de gens disent, ah, moi j'ai ma propre croyance. Bon, voilà. Ben voilà. Nous devons avoir la foi, pas notre propre croyance, la foi qui vient de l'entendement, de la compréhension de ce que Dieu dit dans le livre. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Vous allez passer pour des bornés, vous allez passer pour des primaires, vous allez passer pour tout. Mais au moins, vous aurez la bénédiction de Dieu et ça se verra. La pratique des bonnes lois, des bons enseignements de Dieu, c'est l'utilisation du pouvoir de la vérité sur le mensonge, sur l'erreur. La vraie foi, c'est la vraie foi mise en pratique, parce que la foi, ce qui n'est pas mise en pratique, ça sert à rien, c'est du pipeau. Mais la foi qui est mise en pratique, c'est l'utilisation du pouvoir. Voilà pourquoi je dis que le libre arbitre, c'est pour ceux qui n'ont pas cette connaissance du vrai pouvoir de la foi, parce qu'ils sont pas dans la communion avec Dieu, ils agissent pas au nom de Dieu, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont à côté, alors de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas, puis ils sont là, ils croient qu'ils ont le libre arbitre, parce qu'ils sont pas dans le Seigneur. Quand on est dans le Seigneur, on n'est pas libre, on fait sa volonté. Puis quand on n'est pas dans le Seigneur, de toute façon, on fait toujours sa volonté, mais seulement on ne le sait pas. Mais tant pis, ils ne veulent pas savoir, ben, ce n'est pas grave. Pour nous, ce n'est pas grave. Pour eux, c'est embêtant, mais ils sont habitués aussi, il ne faut pas. Hein. Ils sont habitués à la médiocrité. C'est bien, il faut les laisser. S'ils veulent pas, il faut les enseigner, mais s'ils ne veulent pas changer, mais laissez-les. Il y a tant de monde sur la terre, on ne va pas évangéliser 5 fois une personne, alors qu'il y en a qui n'ont jamais été évangélisés. Il faut les laisser tranquilles, ils sont contents avec leur truc. Ben, laissez-les. L'étude est la mise en pratique des principes premiers, des causes premières. Elle démontre la science de Dieu. Quand vous pratiquez, quand vous mettez la foi en action, vous démontrez la science de Dieu. Sinon, ben, c'est de la religiosité, c'est du bricolage. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, que notre entendement, il gouverne notre vie. Ce qu'on a compris de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut, ça gouverne notre vie. Ça nous assure la vie abondante, comme Jésus le promet. Mais il ne le promet pas à tous. Il le promet à ceux qui... Alors le mot est terrible. À ceux qui obéissent. Qui se soumettent. Ah, se soumettre, mon Dieu. Ça veut dire se mettre dessous. Alors... À quelle école adhérez-vous? Ce matin, je lisais dans la montagne que l'Église catholique a reconnu pour guérison miraculeuse qui est arrivée à la sœur Tartampion en 1965, je crois. Formidable. Est-ce que vous êtes adepte de la pensée de l'école catholique? Moi, non. Non. Merci, mais non. Est-ce que vous êtes adepte de Socrate, de Platon, de l'islam, de Murphy, du pentecôtisme, de la pensée positive. Non. Je suis adepte. Un adepte, c'est quoi? C'est une personne qui adopte un système et qui y adhère. Qui, écoutez bien le mot, qui l'épouse. Et Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, des adhérents, des gens qui épousent mon enseignement, des adhérents, qui adhèrent à mon système divin, d'opinion divine, en vue d'une vie éternelle, magnifique. Alors bon, il y a des lueurs divines, il y a des lueurs de divinité dans tous les systèmes catholiques, dans Socrate, dans l'islam, dans Platon, dans Murphy, dans, pour ceux qui connaissent, dans le pentecôtisme, dans la pensée positive, chez les brahmanistes, chez les, tout ce que vous voulez, les bouddhistes. Il y a des lueurs de vérité, de beauté, de divinité là-dedans. Il y a des endroits où il y a plus de lueurs que d'autres, c'est vrai. Parce que tous ces systèmes, ils ont plus ou moins pompé dans la Bible ce qui les arrangeait, rejetant ce qui les dérange, et aussi ils ont mis ce qui est, sans avoir même été cherché dans la Bible, ce qui est universel. Faut pas voler, faut pas mentir, faut pas tuer, c'est pas beau, achetu, c'est pas bien. Mais ils ont aussi paraphrasé la parole de Dieu, la Bible. Je suis allé à, où est-ce que c'était déjà? C'était dans le sud de l'Inde, à Auroville, et j'ai visité là-bas l'ashram de la mère, je ne sais plus comment elle s'appelle, la mère Denis. Et vous avez des Français qui vont là-bas, mais par charter, et ils étudient ce que dit la mère, je ne sais plus comment elle s'appelle, la mère Denis, on va l'appeler. Hein. Mais c'est tout pompé dans la Bible et paraphrasé, mis à la petite sauce indienne, et ils sont tous, ah, quelle sagesse. C'est dans la Bible. Ils avaient une Bible chez eux, ici, dans le Vaucluse. Ils sont allés jusqu'en Inde pour entendre les mêmes choses, et parce que c'est une bonne femme qui a un regard un peu spécial, et puis qui se promène en sari, en jetant des pétales de rose. Alors ça les impressionne plus. C'est curieux quand même. Elle a pompé dans ce qui est... Alors il y a des lueurs de vérité, c'est vrai, c'est pas que du mensonge. Mais il y a un seul principe, comme il n'y a qu'un seul Dieu. Et avec ses lois spirituelles, ses règles et leurs démonstrations, qui sont semblables à lui, qui sont semblables à Dieu, c'est-à-dire toujours les mêmes, hier, aujourd'hui, éternellement, ça ne change pas. Vous avez des gens, par exemple, je parle de Murphy, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais Murphy, c'est un génie, c'est un type, il a découvert les lois dans la Bible. Et alors, il a fait des bouquins sur ces lois sans Dieu, parce qu'il a découvert que c'est des lois. Et vous pouvez mettre ces lois en pratique sans Dieu. Ça marche, parce que c'est des lois. Et c'est fantastique, si vous lisez Murphy, mais vous allez dire, mais il est génial. Oui, seulement, le principal, il passe à côté, c'est-à-dire la crucifixion, le pourquoi de Jésus est mort à la croix, pourquoi Jésus est ressuscité. Mais tout le reste, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Les lois, c'est des lois, elles sont immuables, elles ne changent pas. Les païens peuvent les mettre en pratique et recevoir, être bénis, rien qu'en mettant en pratique ces lois, même sans adorer Dieu. C'est terrible, parce que ce sont des lois. Et alors le principe divin qui est au-dessus de tout, c'est l'amour. Vous savez, quand on regarde bien, on s'aperçoit assez vite que sans l'amour... La lettre, les enseignements, les doctrines, la connaissance et toutes ces choses, c'est que le corps mort de la science, sans l'amour. Parce que c'est l'amour qui donne vie, qui fait que c'est beau. Alors écoutez bien ça. Vous qui souffrez dans votre corps, on va prendre que deux cas aujourd'hui. Vous qui souffrez dans votre corps, vous qui êtes débordé par des problèmes d'argent, vous qui écoutez sur le net et vous qui êtes ici. Écoutez bien et réfléchissez-y. Dieu est tout en tout. Ça, c'est écrit. Bon, Dieu est le bien, ok. Dieu a créé la matière, d'accord. C'est pour un temps qu'il l'a créé, d'accord. Alors, la matière est inférieure à Dieu. Elle lui est soumise, mise dessous, par définition, puisque le Créateur est toujours plus grand que ce qu'il a créé. Dieu est en vous en particulier. Il est en tout, mais il est en vous en particulier dans le sens qu'il est en harmonie avec vous parce que vous avez fait la paix avec lui. Il a fait la paix avec vous par la croix, par le sang de Jésus-Christ. Vous l'avez reçu comme sauveur, mais aussi comme maître. Donc, particulier, en particulier, il est en vous plus que partout ailleurs puisqu'il est en harmonie avec vous. Ok ? Alors, il vous a donné le pouvoir de la foi qui vient de l'enseignement qu'il a donné aux apôtres, aux prophètes et qui sont là dans ce livre. Vous avez ce pouvoir. Par son nom, vous dirigez. Par son nom, vous contrôlez. Pas seulement les maladies, mais l'argent. Vous contrôlez les situations. Vous contrôlez tout. Par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui résiste au nom de Jésus-Christ. Tout fléchit les genoux au nom de Jésus-Christ. Et quand vous prononcez ce nom, quand vous agissez selon les règles, c'est obligé, vous êtes dans la bénédiction et c'est obligé. Ça marche. Alors, parlez à votre corps malade. Arrêtez de demander à Dieu de vous guérir. Arrêtez de demander à Dieu de bénir vos finances. On va commencer par le corps. Parlez à votre corps. Vous avez déjà fait ça? Parlez à votre corps. Mon cher corps, je te remercie d'abriter mon esprit. Est-ce que vous avez déjà fait ça? D'abord, parlez-lui gentiment. Remerciez-le. Il vous a traîné quand même longtemps. Hein, moi, ça fait 63 ans. Bientôt, c'est mon anniversaire, le 5 février. Ça y est, je l'ai dit. Remerciez-le. Soyez gentil avec votre corps. Demandez-lui de vous écouter attentivement. Hein? Et puis ensuite, vous lui ordonnez, vous lui passez un ordre, mais avec respect, pas... Non, avec respect, gentiment, vous lui donnez un ordre avec tact, l'ordre de s'équilibrer, de lutter contre le mal qui est un mensonge, qui veut vous déstabiliser, qui veut mettre le désordre. Vous lui dites, voilà, maintenant, occupe-toi, il y a tout en toi pour que la santé puisse être mienne. Alors maintenant, je te demande de t'occuper, de faire ton travail. Alors, il peut vous venir une idée, peut-être. Tiens, si je l'aidais un petit peu mon corps en lui donnant un peu moins de fromage, par exemple, hein, un petit peu moins de viande, peut-être aussi un peu moins d'alcool ou un peu moins de piment, ou tiens, si je lui donne un peu plus de repos, s'il peut vous venir des idées, hein, parce qu'il peut vous communiquer des idées, votre corps, hein, et puis parce que le corps, l'esprit, tout ça, c'est mélangé, c'est très, très, très bien tissé. Alors, faites ce qu'il vous dit aussi, hein, soyez sage. Dites-lui que vous lui parlez de la part de Jésus. Parce que dire au nom de Jésus, ça veut dire de la part de Jésus. Dites-lui, je te parle de la part de Jésus. Il va vous obéir. Avec l'argent, vous faites la même chose. Vous allez me dire, oui, mais l'argent, c'est un démon, c'est mammon. Oui, d'accord. Mais si vous chassez tous les démons, vous risquez pas d'avoir d'argent, parce que comme mammon, c'est un démon, si vous chassez mammon, vous n'aurez pas d'argent. Donc, comme vous avez besoin d'argent, il vaut mieux pas le chasser, celui-là, faut le maîtriser. Hein. Donc, vous lui parlez, vous lui dites, bon, jusqu'à maintenant, c'est bien, on a pu s'en sortir, on a mangé tous les jours, je suis bien content, tu as été un bon esclave, mais maintenant, je te demande d'être un petit peu plus présent, hein. Maman, au nom de Jésus, je te parle, attention, je te parle de la part de Jésus maintenant, je te donne l'ordre de venir là dans mon porte-monnaie, dans mes finances, hein, afin que je puisse l'utiliser, parce que j'ai beaucoup de besoins, j'ai une église qui fait des grands projets, et qui, le pasteur va partir en Afrique bientôt, là, le 31 octobre, il y a besoin d'argent, hein. Donc, il faut absolument que je puisse donner à l'église, il faut que je puisse donner à la famille, à les enfants, ils grandissent, il faut changer les chaussures, donc l'argent, allez, hop, 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 maintenant je te dis ça, de la part de Jésus, il faut que tu viennes, vous comprenez, pour l'église, pour votre famille, pour vous-même. Hein, vous avez le droit de demander un écran plat pour chez vous. C'est pas un péché. Ça existe. C'est pas un péché. Vous avez le droit. Voilà. Je veux un écran plat. Alors maintenant, cet argent, tu viens parce que j'ai besoin de ça. C'est pas vraiment un besoin. C'est un désir. Mais l'Éternel nous accorde tout ce que notre cœur désire aussi. Pas seulement les besoins, mais aussi les désirs. Donc, n'ayez pas de culpabilité au sujet de ces choses. Et puis, voilà. D'accord. Vous avez compris. Mais parlez-lui. Bien sûr, avant de lui parler, avant de parler comme ça, avant de vous adresser à votre corps ou à mammon, avant de faire ça, assurez-vous bien que le diable ne peut pas vous accuser. Parce que s'il peut vous accuser devant Dieu, là, vous avez perdu la bagarre. Le diable, il se présente devant Dieu, puis il raconte les histoires. Il peut vous accuser. Alors assurez-vous d'être en harmonie avec les règles de Dieu. Et puis s'il y a besoin, repentez-vous. Mais repentez-vous, ça ne veut pas dire roulez-vous dans la poussière et la cendre jusqu'à ce que tout d'un coup vous sentiez de nouveau l'assurance de votre salut et la joie, le bonheur de votre salut. Non, c'est pas ça. Vous dites à Dieu ce que vous avez fait. vous lui dites que vous en êtes absolument désolé, vous lui demandez de vous aider à ne plus le faire, et puis après vous relevez votre tête, et puis vous commencez à agir selon l'enseignement de Jésus-Christ, et puis vous parlez à vos montagnes, hein, avec précision, vous leur dites où vous voulez qu'elles aillent. Vous pouvez les chasser dans la mer, mais vous pouvez les chasser ailleurs, hein, sur Mars. Moi, très souvent, mes problèmes, je les chasse dans le Grand Canyon. J'ai visité le Grand Canyon avec Marc Croza. J'ai trouvé que c'est un endroit particulièrement affreux dans lequel je voudrais pas vivre. Alors, mes problèmes, je les envoie dans le Grand Canyon. Hein, ça me permet de visualiser où c'est que je les mets, mes problèmes. Qu'est-ce qu'il doit y en avoir en ce moment? Le Grand Canyon, il va bientôt être comblé. Et puis ensuite, ben voilà, vous dites vraiment, vous êtes précis hein, dans ce que vous dites. Dites-leur bien que vous leur parlez de la part de Jésus, avec l'agrément de Jésus. Et puis, vous faites tout ça paisiblement. Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de hurler, il n'y a pas besoin d'être crispé. Vous parlez gentiment, clairement, sans hausser le ton, il n'y a pas besoin. Mais par contre, vous parlez en ayant autorité. Parler avec autorité, ça veut dire que vous avez été revêtu de l'autorité. C'est Dieu qui vous a donné cette autorité. Si vous le savez, vous n'êtes pas obligé de hurler. Vous passez l'ordre et ça passe. Non ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il se peut donc, comme je vous disais, qu'une idée germe dans votre cerveau au sujet de ce que vous pourriez faire pour améliorer votre situation financière, par exemple aussi, eh ben, faites-le sans hésiter et sans murmurer. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Sans hésiter et sans murmurer. Si c'est une bonne idée, c'est-à-dire si c'est une idée qui va permettre que Dieu soit glorifié, que les autres soient contents et que vous soyez contents aussi, eh ben, c'est une bonne idée qui vient de Dieu. Faites-la sans murmurer et sans hésiter. Ne doutez pas de vos paroles. Alors, parce que si vous doutez de vos paroles, vous êtes en incohérence, ça va pas. Ne doutez pas de ce que vous dites. Croyez que ce que vous avez dit arrive et vous le verrez s'accomplir. C'est pas Michel Janton qui a pondu cette doctrine, c'est une loi de Dieu. Vous reconnaissez cette loi de Dieu? Elle est écrite, n'est-ce pas? Soyez des scientifiques de la foi, mes frères et sœurs, et agissez comme des scientifiques de la foi, pas comme des émotifs. Comme des scientifiques de la foi, et vous verrez des prodiges, et votre vie terrestre glorifiera Dieu. Les autres seront contents, et vous serez comblés. Amen. Dieu vous bénisse. Alain, tu viens terminer. Amen.